de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, nous présentons maintenant le journal et on commence avec les titres. La 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à Jakarta mercredi a abouti à 7 points d'accord. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, tient une réunion trilatérale entre l'Indonésie, la Chine et la Russie. L'Arabie Saoudite est le 51e pays à signer le traité d'amitié et de coopération de l'ASEAN. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. La réunion du deuxième jour des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN où la 56e session de retraite de AMM à Jakarta mercredi a terminé un ordre du jour important. De cette réunion, 7 points ont été convenus. La discussion lors de la 56e AMM, la session de retraite, a été menée très ouvertement. Même s'il y avait deux ordres du jour, mais la plupart des discussions ont été menées dans le cadre de la mise en œuvre des 5 points consensus lié à la crise de Myanmar ou 5PC.
Kita selesai melakukan retreat antara para menteri luar negeri ASEAN.
Nous avons terminé la tenue d'une retraite entre les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et deux questions principales ont été discutées. La première était un examen de la mise en œuvre des 5 points de consensus. La seconde était la construction d'une architecture régionale inclusive. La ministre Retno Marsudi a déclaré les 7 points principaux qui ont résulté des discussions lors de la 56e session de réflexion de AMM, à savoir tous les pays membres de l'ASEAN apportant leur soutien et leur appréciation pour les choses qui ont été faites par l'Indonésie en tant que président de l'ASEAN concernant cette question. Tous les pays soulignent l'importance de l'unité entre les pays membres. L'approche 5PC reste la principale référence pour la résolution de crise au Myanmar, tandis que d'autres initiatives devraient soutenir et s'aligner sur le 5PC. La priorité actuelle de l'ASEAN est la mise en œuvre du 5PC. La session de retraite a également produit une perception commune concernant l'engagement ou l'approche intensive et extensive qui a été menée par l'Indonésie concernant la crise de Myanmar et encourage maintenant le dialogue afin de créer une situation de paix durable.
Semua mendukung pentingnya mulai dipikirkan
dialogue sebagai
tout le monde se tient l'importance de commencer à penser au dialogue comme la prochaine pierre angulaire, parce que nous pensons que seul un dialogue inclusif permettra d'obtenir un règlement politique et qu'un règlement politique pourra créer une situation de paix durable. Retno Marsudi a déclaré que le sixième point était que les pays de l'ASEAN expriment leur inquiétude et critiquent le niveau élevé de violence au Myanmar. Par conséquent, l'ASEAN demande à toutes les parties au Myanmar d'arrêter la violence. Le dernier point est que l'Indonésie, en tant que président de l'ASEAN, continuera de coordonner avec le Centre d'assistance humanitaire de l'ASEAN pour la distribution de l'aide humanitaire au Myanmar. Retno Marsudi a déclaré « Les résultats de la réunion de la session de retraite deviendront des suggestions qui seront présentées aux dirigeants de l'ASEAN lors de la 43e sommet en septembre prochain. » Mercredi, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a tenu une réunion trilatérale avec le directeur du bureau de la Commission centrale des Affaires étrangères, Wang Yi, de la Chine, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, au ministère indonésien des Affaires étrangères, à Jakarta. Au cours de la discussion, Retno a souligné que l'Indonésie est ouverte à la communication et au dialogue avec n'importe qui. Cependant, dans le même temps, l'Indonésie est également très ferme et cohérente concernant le respect du droit international et des valeurs, ainsi que les principes soutenus dans la Charte des Nations Unies. Pendant ce temps, Retno a déclaré que lors de la réunion, Wang Yi et Sergei Lavrov ont souligné le respect de la centralité de l'ASEAN. Retno a déclaré qu'il soutenait la présidence indonésienne, la centralité de l'ASEAN et considère que le forum organisé par l'ASEAN est un forum très stratégique où tous les acteurs clés de la région s'assoient et discutent de la situation régionale. La réunion trilatérale entre l'Indonésie, la Chine et la Russie fait partie d'une série d'événements de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est avec des pays partenaires de dialogue. Outre la Chine et la Russie, les autres partenaires de dialogue de l'ASEAN sont l'Inde, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis. L'Arabie Saoudite est devenue le 51e pays à signer l'adhésion au traité d'amitié et de coopération de l'ASEAN. Cela a été transmis par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, lors de la cérémonie de signature du traité d'amitié et de coopération par le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan al-Saud, en marge de la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à Jakarta, mercredi. En signant le traité, a déclaré la ministre Retno Marsudi, l'Arabie Saoudite s'est engagée à adhérer aux valeurs et principes de l'ASEAN, à savoir travailler ensemble, respecter systématiquement le droit international et contribuer à la paix et à la stabilité dans la région de l'Asie du Sud-Est et au-delà. Retno a souligné qu'il était important de continuer à mettre en œuvre ses valeurs et principes dans le contexte de la situation géopolitique actuelle de plus en plus dynamique. Outre l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, en tant que présidente de l'ASEAN cette année, demandera également la signature de l'adhésion du TAC par le Panama, l'Espagne et le Mexique en mars du 43e sommet de l'ASEAN en septembre 2023. Formé en 1976, ce traité vise à créer une stabilité politique et sécuritaire dans la région de l'Asie du Sud-Est, entre autres en réglementant la résolution pacifique des conflits entre les pays parties. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramuthvinay, a confirmé les informations faisant état de sa récente rencontre avec la dirigeant évancée et toujours emprisonnée du Myanmar, Aung San Suu Kyi. Le ministre des Affaires étrangères, Pramod Winay, a fait savoir en marge de la session d'examen de la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à Jakarta, mercredi. Dès sa rencontre avec Aung San Suu Kyi, selon lui, elle a encouragé le dialogue pour résoudre la crise politique au Myanmar. Selon le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, une approche avec les autorités de Naypyidaw, y compris avec la junte, est nécessaire de toute urgence. La Thaïlande est connue pour avoir adopté une approche différente des autres membres de l'ASEAN dans ses efforts pour aider à résoudre la crise au Myanmar. Depuis l'année dernière, la Thaïlande a tenu au moins 3 réunions, une invitation des représentants de la junte birmane, y compris une réunion en juin dernier, qui a également invité le ministre des Affaires étrangères de l'ASEAN, mais seul le ministre des Affaires étrangères de l'OTAN a accepté d'y assister. Selon Pramod Winay, les pourparlers qui ont eu lieu à 3 reprises par la Thaïlande en invitant la junte du Myanmar étaient conformes à l'accord des dirigeants de l'ASEAN basé sur le document de décision d'examen et la mise en œuvre du consensus en 5 points. La rencontre avec Pramod Winay et Suu Kyi aura lieu dimanche. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, M. Sandiaga Salahuddin Uno, a déclaré que l'événement du Forum international de l'investissement touristique 2023 pourrait devenir un forum de discussion sur les opportunités de développement du tourisme durable en Indonésie. Dans sa déclaration officielle à Jakarta mercredi, il a déclaré que le tourisme a besoin d'accessibilité, d'attraction et d'aménité. Selon lui, l'aménité a besoin de soutien, entre autres provient de la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne, pour inviter les investisseurs à construire les infrastructures de soutien au tourisme. Triawan Munaf, le vice-président de Kadin pour le tourisme et de l'économie créative, a expliqué que l'évolution des investissements dans le pays est considérée comme attrayante par les investisseurs locaux et internationaux. Triawan a révélé que son parti essaierait de présenter correctement les opportunités d'investissement et de les proposer aux investisseurs potentiels. Ce forum sera un espace pour présenter et promouvoir les opportunités d'investissement dans les destinations touristiques indonésiennes ou les zones qui promeuvent les principes du tourisme durable. L'activité du Forum international de l'investissement touristique 2023, soutenue par la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne, se tiendra le 26 et 27 juillet 2023 à Nusa Dua, Bali. Cette activité sera un forum de discussion sur les opportunités et les défis de la mise en œuvre d'investissement vert pour encourager le développement du tourisme durable à l'échelle mondiale en Indonésie. L'observateur sociopolitique de l'Université Syekh Kuala à Banda Aceh, M. Iqbal Ahmadi M. Daud, MIP, a déclaré que l'Indonésie avait un rôle important à jouer dans la formulation de solutions au traitement des réfugiés demandeurs d'asile dans l'ASEAN. Iqbal à Banda Aceh mercredi a estimé que la réunion entre les membres de l'ASEAN à Aceh du Sud-Est dans le cadre de la force de l'ASEAN 2023 en Indonésie était le bon moment pour l'Indonésie d'influencer les pays de la région de l'ASEAN pour résoudre le problème des réfugiés. Selon lui, l'un d'entre eux est la question de la gestion de la vague de réfugiés due au conflit Rohingya au Myanmar, qui fait actuellement de l'Indonésie comme pays d'atterrissage. Les gens de la barque sont entrés en Indonésie via Aceh, après avoir rejeté par d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Bien sûr, a déclaré Iqbal, les habitants d'Aceh ne peuvent pas continuer à apporter cette assistance, d'autant plus que leur embarquement sur la côte d'Aceh n'est pas un hasard. Pour cette raison, selon Iqbal, l'Indonésie, en tant que président de l'ASEAN, possède un rôle important et le bon élan pour exprimer une solution à la gestion des réfugiés en Asie du Sud-Est via la force de l'ASEAN 2023. Selon lui, le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du président Joko Widodo, peut discuter en permanence de la gestion des réfugiés à l'avenir. Il espérait qu'il y aurait une répartition des rôles entre les pays membres de l'ASEAN et aussi UNHCR en tant que l'agent chargé de traiter des réfugiés du monde dans les efforts pour les résoudre. L'Agence nationale de la population et de la planification familiale, ou BKKBN, a déclaré que l'implication des femmes et des filles pouvait conduire à la création d'une vie plus juste, résilience durable et illimitée dans le monde. Le chef de l'Agence nationale de la population et de la planification familiale, M. Hasto Wardoyo, a confirmé à Jakarta mercredi que tous les éléments de la société doivent écouter la voix des femmes et des enfants afin de comprendre les défis auxquels ils sont confrontés pour prouver leur potentiel. Donner aux femmes et aux filles les moyens d'exercer leur droit à prendre des décisions aura un impact direct sur la construction d'un monde meilleur pour que de nombreuses personnes vivent à l'abri de la violence et réalisent leur potentiel optimal. Cette condition, selon elle, limite le libre arbitre des femmes et leur capacité à prendre des décisions concernant leur santé reproductive et leur vie. Cela les empêche souvent de réaliser les plans de reproduction et de fertilité qu'ils désirent. Hasto a poursuivi que les conditions des femmes et des filles étaient de plus en plus préoccupantes. D'après les conclusions publiées par les Nations Unies, l'inégalité entre les sexes empêche de nombreuses femmes et filles d'aller à l'école ou d'obtenir des emplois et des postes de direction. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Oh, Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique ayant pour le titre « L'ambassade d'Indonésie à Kuala Lumpur coopère avec les acteurs de l'économie créative indonésienne à Nusa Fest ». L'ambassade d'Indonésie à Kuala Lumpur collabore avec un certain nombre d'acteurs indonésiens de l'économie créative pour promouvoir leurs produits au Nusa Fest. L'événement a lieu à Bandar Malaysia, Kuala Lumpur, le 8 et 9 juillet 2023. Le coordinateur de la fonction des affaires économiques à l'ambassade d'Indonésie à Kuala Lumpur, Hendra P. Iskandar, a déclaré qu'avec une préparation relativement courte d'environ 2 semaines, plusieurs micro, petites et moyennes entreprises MPME des provinces de Riau, Aceh, Bengkulu et de Sumatra occidentale ont présenté ses produits à Warung Nusa lors de l'événement Nusa Fest. Ils ont présenté du café, banana kipas free, siomay, Jakarta et nasi padang. Hendra a également déclaré que même si Warung Nusa n'était pas très grand, c'est suffisant pour représenter l'Indonésie. Il a ajouté que l'ambassade d'Indonésie à Kuala Lumpur soutiendra toujours les MPME et les acteurs de l'économie créative qui étaient vraiment intéressés. Hendra expliquait que les activités de Nusa Fest ont d'abord été transmises au ministre de Tourisme et de l'économie créative Sandiaga Uno lors de sa visite en Malaisie. On espère que cette façon de promouvoir la nourriture, l'habillement et le style de vie pourra ensuite s'étendre au tourisme. L'activité Nusa Fest, à laquelle ont également participé des cafés, des PME malais, est l'occasion de promouvoir et de proposer des échantillons du café Gayo, qui est le produit phare de l'Indonésie. En plus d'afficher une variété de produits de micro, petites et moyennes entreprises, MPME, Nusa Fest a également présenté un concert de plusieurs musiciens de 3 pays, à savoir l'Indonésie avec 11 groupes de musique, la Malaisie avec 12 groupes et Singapour avec un groupe qui a duré 2 jours. C'est Zurita, c'était la clé diplomatique pour ce soir.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et ses enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the
world. Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui qui va commencer avec l'événement du 13 juillet 1930, la première Coupe du monde de la FIFA a eu lieu. Une compétition de football de classe mondiale organisée par Fédération Internationale de Football Association, FIFA, est tenue pour la première fois le 13 juillet 1930. Le premier tournoi de la Coupe du monde de la FIFA a eu lieu en Uruguay et comprenait 18 pays. Tous les matchs de cette première Coupe du monde se jouent dans la capitale de l'Uruguay, Montevideo. La majorité des matchs a lieu à l'Estadio Centenario qui a été délibérément construit pour accueillir le tournoi de la Coupe du Monde. Le premier événement de football de la FIFA au monde a été remporté par l'Uruguay. Parce que maintenant, le 13 juillet 1949, le gouvernement d'Urzang de la République d'Indonésie a officiellement pris fin. Le gouvernement d'Urzang de la République d'Indonésie est l'organisateur du gouvernement de la République d'Indonésie pour la période du 22 décembre 1948 au 13 juillet 1949, dirigé par Shafruddin Prawira Negara, également appelé Cabinet d'Urzang. Soekarno et Hatta ont été capturés par les Hollandais le 19 décembre 1948 et exilés. Peu de temps avant leur arrestation, ils se sont rencontrés et ont donné mandat à Shafruddin Prawira Negara pour former un gouvernement intérimaire. Le 6 juillet, Soekarno et Hatta sont rentrés d'exil à Yogyakarta, la capitale provisoire de la République d'Indonésie. Shafruddin Prawira Negara, qui était président du gouvernement d'Urzang de la République d'Indonésie, a rendu son mandat à Soekarno et a officiellement mis fin à l'existence du gouvernement d'Urzang de la République d'Indonésie le 13 juillet 1949. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 13 juillet 2000, signature de l'accord commercial bilatéral entre le Vietnam et les États-Unis. Le Vietnam a une longue histoire de guerre avec les États-Unis. Après la guerre, la normalisation des relations entre les deux pays s'est effectuée 2 ans après le départ de l'Amérique du Vietnam. Le 13 juillet 2000, le Vietnam et les États-Unis ont signé un accord commercial bilatéral. Grâce à l'accord commercial, les exportations du Vietnam vers les États-Unis ont fortement augmenté. Les États-Unis sont devenus le plus grand marché d'exportation du Vietnam en seulement 2 ans après la mise en œuvre de l'accord commercial. C'est le temps, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers hommes de l'antenne, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « Le chef du BMKG a déclaré que le changement climatique pourrait menacer la sécurité alimentaire ». Le chef de l'Agence de météorologie et de climatologie et de géophysique, BMKG, Dwi Korita Karnawati, a averti que le changement climatique pourrait menacer la sécurité alimentaire. Dans un communiqué publié mardi 11 juillet, il a déclaré que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, prévoit même qu'en 2050, le monde sera confronté à une famine potentielle due au changement climatique, en raison de la baisse de rendement des cultures et de l'échec des récoltes. Par conséquent, elle a ajouté que les actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique doivent être menées en mettant l'accent sur les aspects économiques, sociaux et sur l'écosystème ou le paysage. Dwi Korita a également expliqué que tous les pays du monde subissent actuellement les effets du changement climatique à différents niveaux, telles que les conditions météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles, la diminution de la biodiversité et la crise de l'eau. Par conséquent, il est nécessaire de prendre des mesures concrètes de tous les pays pour réduire le rythme de changement climatique. Selon elle, sur la base d'un rapport publié par l'Organisation météorologique mondiale, OMM, il est indiqué que 2022 est classé comme la sixième année la plus chaude au monde. De plus, la période 2015-2022 a été les 8 années les plus chaudes enregistrées par l'OMM. Au début de décembre 2020, a également classé 2016 comme l'année la plus chaude classée première, 2020 étant sur la bonne voie vers l'une des 3 années les plus chaudes jamais enregistrées. Pendant ce temps, en Indonésie, sur la base des observations faites par le BMKG à partir de 91 stations de BMKG, la température moyenne de surface en 2022 était de 0,9 degrés Celsius, supérieure à celle de 1981 à 2010, indiquant que les phénomènes d'augmentation de la température se produisent également localement et globalement. Dwi Korita a souligné que le réchauffement climatique a déclenché une modification des schémas saisonniers et de la température de l'air, ce qui a entraîné une augmentation de la fréquence, de la durée et de l'intensité des catastrophes hydrométéorologiques. L'un d'entre eux était la survenue d'incendies de forêt et de terre, qui n'étaient pas seulement affectés par des conditions de sécheresse extrêmes, mais provoquait également une augmentation des émissions de carbone et de particules dans l'air. Il a en outre déclaré que l'agence continue de mener diverses actions d'atténuation et d'adaptation du changement climatique. Dans le secteur agricole, l'agence organise également régulièrement des écoles de terrain sur le climat, SLI, ciblant les agents de vulgarisation agricole et les agriculteurs de divers produits de qualité supérieure. Cette mesure est également prise pour renforcer la connaissance météorologique et climatique. C'est Zuritak, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Fall in love like the old-fashioned way, just like they do in old movie. When Romeo meet Juliet, when Harry met Sally, no emojis, and we don't need IG story. We just say what we wanna say to a love letter and poetry. I wanna sing a song that'll make you smile. I want to buy a flower just for you. So let me take your hand. We take a walk at night across the city until the morning sun. Even if the rain falls down, we're still dancing in the rain. Baby, let's fall in love like the old-fashioned
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez les tards, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Ces auditeurs, le palais de Yogyakarta a une tradition unique d'accueil de nouvelles langues islamiques ou nouvelles langues ezir, à savoir Mubeng Beteng. Cette tradition héréditaire est réalisée par tirakat lampahatri ou prière Dieu en marchant le long dans certaines semaines. Il existe un certain nombre de pistes à Mubeng Beteng, mais la plus populaire fait le tour du palais de Yogyakarta. Les serviteurs du palais et les résidents, les participants au rituel ont parcouru environ 5 km autour de la forteresse du palais de Yogyakarta. Les serviteurs alignés à l'avant portant des vêtements javanais sans crise ni chaussures. Ils ont marché en portant le drapeau indonésien et la bannière du palais de Yogyakarta. Pendant ce temps, les habitants participant au Mubeng Beteng étaient derrière le serviteur Royo.
Musique.
Avant le début du mouvement bétain, des chansons de Machapat sont récitées depuis le palais Sri Manganti du palais de Yogyakarta qui représente des prières. Ce rituel commence à minuit lorsque la cloche de Kyai Brajanala dans la cour de Keben sonne 12 fois. De plus, les serviteurs et les résidents participant du carnaval ont parcouru environ 5 km autour du fort du palais de Yogyakarta. La route Mubeng Beteng est dans le sens anti-horaire. La tradition Mubeng Beteng est connue sous le nom de rituel Tapabisu car lorsqu'il se promène dans le palais, il est interdit aux participants du carnaval de se parler. Il leur est également interdit de manger et de boire pendant le rituel. Tapabisu est un symbole d'inquiétude et d'introspection pour les habitants de Yogyakarta en accueillant la nouvelle année. À Tapabisu, les participants font une auto-introspection sur ce qu'ils ont fait pendant un an. Ensuite, cela deviendra un rappel pour s'améliorer au cours de l'année à l'avenir. Ces auditeurs, historiquement, Mubeng Beteng est une tradition javanaise islamique qui a commencé lorsque le royaume de Mataram a construit un fort autour du palais. Le fort est achevé sur un sureau selon le calendrier javanais. Ensuite, les soldats entourent régulièrement le fort pour se prémunir contre les menaces ennemies. Après avoir construit un fossé autour du palais, la tâche de faire le tour de la forteresse du palais a été remplacée par des courtisans. Les serviteurs se promènent en lisant des prières silencieuses afin qu'ils soient en sécurité. Initialement, Mubeng Beteng était exécuté par des serviteurs. Au fil du temps, les gens peuvent également participer à ce rituel. Ces auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Bersamamu sengaja tuk habiskan waktu tuk temani jiwaku jiwa yang selalu ada untukmu selalu kau yang berbeda untukku hanyalah dirimu di sini tetaplah engkau di sini temani diriku.
Serge Litard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Gelar Batik Nusantara 2023. La Fondation du Batik Indonésien organise à nouveau l'événement biennuel Gelar Batik Nusantara 2023 sur le thème Batik Leftoa du 2 au 6 août. Cette activité a soulevé le thème du batik complongan typique de Indramayu. Le président de la Fondation du Batik Indonésien, Gita Pratama, a déclaré que la sélection a été faite parce que son parti était fasciné par le caractère unique du batik complongan. Elle se sent obligée de le faire connaître à la communauté nationale et internationale. Non seulement en voyant des expositions de batik Indramayu et de batik d'autres parties de l'archipel, les visiteurs de Gelar Batik Nusantara ont la possibilité d'interagir directement avec les artisans, de mieux comprendre les techniques complexes et les histoires derrière chaque travail d'artisan batik de toute l'Indonésie. Les visiteurs peuvent également acheter du batik de tout le pays. Il y a aussi des ateliers, des séminaires, des défilés de mode et aussi des promenades amusantes avec un mélange dynamique de batik et de style moderne. Gelar Batik Nusantara est une plateforme permettant aux artisans et aux professionnels de l'industrie d'approfondir leurs connaissances sur les tendances de la mode, les couleurs et l'innovation, à la fois dans les processus et les techniques impliquées. Cet événement fournit des informations précieuses et des opportunités pour toutes les parties concernées d'apprendre et s'adapter dans leur domaine et l'industrie respective. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the world. Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie et de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonjour Jetar, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.